الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأربع القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. La troisième règle. Dans cette règle, l'auteur rahimahullah ta'ala nous montre ce sur quoi était Kuffar Quraysh dans l'unité ou non de l'être adoré. C'est-à-dire que dans cette règle, l'auteur rahimahullah ta'ala va démontrer que Kuffar Quraysh, dans leur shirk, ils n'avaient pas la même voie empruntée. Ils étaient divisés et adoraient des divinités différentes. Ça, c'est le premier point. Mais que malgré tout, le prophète alayhi salat wa salam n'a pas fait de distinction entre eux en disant un tel adore les anges et les prophètes, c'est bon, mais un tel adore les pierres et les arbres, ça n'est pas bon, c'est du shirk. Non, il n'a pas fait ça. Donc on va voir à travers cette règle la réalité du shirk. Elle n'est pas définie en regardant l'être adoré en dehors d'Allah. Non. Mais à partir du moment où le culte est donné à un autre qu'Allah, c'est suffisant pour juger du shirk, de l'acte. Voici le point à comprendre et à retenir. Voici le point à comprendre et à retenir. La compréhension de cette règle est très importante pour se préserver des ambiguïtés propagées par les polythéistes, les adorateurs des saints, des tombeaux et autres. Ils invoquent le prophète alayhi salat wa salam, ils adorent des saints et disent « Comment est-ce que vous nous qualifiez de polythéistes ?» Alors que Kuffar Quraysh n'adorait que les pierres et les arbres, alors que nous, on donne de l'adoration aux saints, aux awliya, à des prophètes, à des anges. Et on reconnaît qu'Allah, c'est lui le créateur. Et on dit « La ilaha illallah ». Alors que Kuffar Quraysh n'ont pas dit « La ilaha illallah ». Alors que Kuffar Quraysh ont adoré des pierres et des arbres. Avec cette règle, l'auteur rahimahullah ta'ala est venu réfuter cette ambiguïté. Est venu réfuter cette ambiguïté. Ainsi, tu te concentres sur deux points. Le premier, c'est quoi la réalité du shirk? Le deuxième, est-ce que Kuffar Quraysh ont uniquement adoré les pierres et les arbres ou non? Avec le résultat à ces deux points, ces deux questions, tu vas maîtriser cette règle. L'auteur nous dit qu'ils étaient divisés dans leur adoration. Ils n'adoraient pas une seule chose en dehors d'Allah. Certains adoraient les anges, d'autres les prophètes, d'autres les vertueux, d'autres les pierres, d'autres les arbres, d'autres le soleil, d'autres la lune. En fait, alayhi salatu wa salam, tout cela, Allah Azza wa Jal lui a dit de dire « Qul ya ayyuha al-kafirun ». On n'a pas dit « ceux qui adorent les saints, ceux qui adorent les anges, ceux qui adorent les prophètes, on les met d'un côté, et les autres, on leur dit « Qul ya ayyuha al-kafirun ». Non. Ils sont tous polythéistes. Et on comprendra pourquoi. Incha'Allah ta'ala. Donc la réponse à l'ambiguïté de ces polythéistes a lieu de deux manières. La première, c'est en disant c'est faux. Kuffar Quraysh n'ont pas adoré que les pierres et les arbres. Et on leur apporte les preuves. La deuxième réponse, en leur exposant la réalité du shirk. C'est pas en regardant qui adore en dehors d'Allah. Peu importe. La réalité du shirk, sarfu haqqillah ila ghayrillah. Donner le droit d'Allah à un autre qu'Allah. Dès lors que cette action est faite, on qualifie cela de shirk. Peu importe qui est cet autre. Voici les deux réponses à maîtriser. La première, c'est faux. Kuffar Quraysh n'a pas adoré que les pierres et les arbres. Pour preuve, tel verset, tel verset, tel verset, tel hadith. Deuxièmement, la réalité du shirk ne se fait pas en regardant qui est adoré en dehors d'Allah. Mais plutôt, est-ce que le droit d'Allah est donné à autre qu'Allah ou pas? Ces deux réponses, il faut les maîtriser. Les gens du faux, en toute époque, tentent de mélanger le vrai au faux. Ainsi de susciter la dissension et de rendre floues les choses claires. Vous avez compris? Et une de leurs méthodologies, une de leurs méthodes, c'est d'altérer l'appellation des choses et de les nommer différemment de ce qui est connu. Vous avez compris? Dans l'adoration, par exemple, ils vont pas dire shirk. Ils vont dire mahabbatul awliya. Ils vont dire l'amour des saints. Ils vont pas appeler le fait qu'ils sacrifient des bêtes pour le mort, qu'ils se prosternent pour le mort, qu'ils font des vœux aux morts, qu'ils aiment le mort comme ils aiment Allah, qu'ils ont peur du mort comme ils ont peur d'Allah. Ils vont pas appeler ça shirk. Ils vont dire mahabbatul salih. C'est un exemple dans l'adoration. Le fait qu'ils invoquent autre qu'Allah Azza wa Jal, ce dans quoi seul Allah est capable, ils vont pas appeler ça shirk. Ils vont appeler cela talab shafa'a, ou bien tawassul. Vous avez compris? Ils dénaturent l'appellation des choses en les remplaçant par d'autres termes qui, eux, sont plus agréables et pas alarmants. Ça, c'est dans le domaine du culte, mais ils le font dans tous les domaines. Le khamr, ils vont pas l'appeler khamr, parce que ça veut dire ce qui couvre l'esprit. L'alcool, la drogue, ils vont pas appeler ça comme ça. Hein? Ils vont pas appeler. Ils vont dire, par exemple, drogue douce. Hein? Drogue douce. C'est une contradiction. C'est une contradiction. Est-ce qu'il peut y avoir de douce guerre? Hein? Non. La guerre, par définition, c'est brutal, c'est violent. Hein? Et la drogue, c'est pareil. C'est haram, ça détruit la raison. Ça détruit la raison. Comment on appelle cette figure de style? Rester dans la science religieuse, c'est mieux. Donc, un autre exemple, ils vont appeler l'homme qui fréquente la femme en dehors du mariage, ils vont pas appeler cela zina. Ils vont dire, c'est sa copine. Hein? Et alors, ils vont atténuer la bassesse de l'acte et la turpitude par la mention de termes qui, eux, peuvent être acceptables. Est-ce que ça change le sens? Oui. Est-ce que ça change le jugement? Non. Parce que le musulman, il est clairvoyant. Se laisse pas avoir. Et vous pouvez faire ça dans beaucoup de domaines. Vous pouvez faire ça dans beaucoup de domaines. Non. Des personnes qui se révoltent contre les dirigeants sortent contre eux, soit avec la parole, soit avec les armes. C'est des khawarij. C'est des khawarij, des mubtadi'a. Certains vont les appeler al-qawwal bil-haq. Kalimat al-haq. Al-shuja' fulan. Hein? Le courageux, celui qui ose, celui qui dit, celui qui... Non. C'est un khariji, khariji. Khariji, khariji. Tu peux utiliser d'autres noms, tu peux utiliser d'autres emblèmes. Ça reste la même chose. Le rebelle, c'est un rebelle. Ou ils vont dire, c'est une personne de caractère, c'est une personne de courage. Pourquoi? Parce qu'il se rebelle contre ceux qui ont un droit sur lui. Ou sur elle. Que soit le gouverneur, que soit le parent, que soit le mari, que soit, ils sont courageux, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont libres. Et la liberté, c'est de transgresser. Tout ça, c'est pour tromper les gens. Et pour réussir à véhiculer ce à quoi ils n'adhèrent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dénaturent les choses, ils changent l'appellation. Mais le musulman doit se concentrer sur la réalité des faits. La réalité des faits, c'est très important. Barakallahu fikoum. Ils vont traîner dans le haram, ils appellent ça comment? Une sortie. Si l'enfant vient et dit, Abi, je peux aller à une sortie, ça sonne bien. Une sortie, c'est la classe. Si je peux aller faire tel haram et tel haram, tu vas dire, t'es malade ou quoi? Comment ça, tu vas faire tel haram? Non, ils vont lui dire, on va en sortie. Non, mais ils vont changer les termes pour que ça passe bien. L'alcool, ils vont l'appeler eau de vie. Apéritif. Attends, apéritif. Hein? Et tu as envie de savoir presque c'est quoi apéritif? C'est de l'alcool. Haram. Donc, on ne se laisse pas avoir par ces méthode sournoise. L'auteur va citer un ensemble de choses adorant dehors d'Allah Azza wa Jal au temps du prophète alayhi salatu wa salam. C'est la première réfutation. Wa dalilu shamsi wal qamar qawluhu ta'ala wa min ayati al-layl wal nahar wa shams wal qamar لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. À chaque fois, il vous est demandé de comprendre en quoi ce verset est une preuve qui prouve que Kuffar Quraysh ont adoré autre qu'Allah. C'est ça le but de l'énumération de ces points. Là, on veut prouver quoi? Qu'ils ont adoré le soleil et la lune. Pour preuve, dans Surat Fussilat, la traduction du verset, et parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla interdit la prosternation, qui est une adoration, devant le soleil et la lune. Et le fait qu'ils interdisent cela, c'est la preuve que ça a eu lieu. C'est la preuve que ça a eu lieu. Plus encore, pour préserver les délimitations du tawhid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait d'adorer Allah en se prosternant pour lui aux heures durant lesquelles le soleil se lève et se couche. En justifiant cela par sa parole, le soleil se lève entre les cornes du shaitan, se couche entre les cornes du shaitan, et à ce moment-là, les polythéistes se prosternent. On a tellement préservé le tawhid, on a tellement éloigné toutes les causes et les moyens menant au shirk, qu'on a interdit aux musulmans d'adorer Allah sincèrement, s'il y a une ressemblance à ce moment-là avec ceux qui adorent autre qu'Allah. Subhanallah. Allah aime le sujoud, aime la prière. Mais si tu vas arriver au niveau de ressembler aux polythéistes dans ton acte, eh bien, tu ne pries pas. C'est haram de prier. Pourquoi ? Pour préserver la pureté du tawhid. Pour préserver la pureté du tawhid. Dans le recueil d'Imam Ahmed, dans le hadith de Samurah ibn Jundub, La tusalli أو لا تصلوا حين تطلع الشمس وحين تسقط فإنما تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان. Ne vous prosternez pas lorsque le soleil se lève et lorsqu'il se couche, car il se lève entre les deux cornes du diable et se couche entre les cornes du diable. Le lever du soleil est un grand signe d'Allah Azza wa Jalla. Et le shaitan essaye de tenter les gens avec ce signe manifeste en les détournant du tawhid. Ça, c'est donc la preuve qu'ils ont adoré le soleil et la lune. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « Wa dalilul mala'ika » et la preuve des anges. À chaque fois qu'il dira « et la preuve de », ça veut dire « et la preuve que telle chose a été adorée en dehors d'Allah par Kuffar Quraysh ». Et la preuve des anges, ça veut donc dire, et la preuve que Kuffar Quraysh ont adoré les anges. قوله تعالى وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Il ne va pas vous ordonner de prendre les anges et les prophètes pour seigneurs. Dans ce verset, il y a la preuve que certaines personnes, parmi les polythéistes arabes de l'époque, ont adoré les anges. On a également dans sourate Saba, wa yawma yahshuruhum jami'a thumma yaqulu lil mala'ikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budu. Et le jour où il les ressuscitera tous, et il dira aux anges, est-ce vous qu'ils adoraient? Est-ce vous qu'ils adoraient? Qalu subhanak. Ils diront, exempt sois-tu. Éloigné de tout défaut, sois-tu. Anta waliyuna min dunihim, tu es notre allié en dehors d'eux. Bel kanu ya'buduna al-jinn. Mais ils adoraient plutôt les djinns. Aktharuhum bihim mu'minun. La plupart d'entre eux sont envers eux croyants. C'est-à-dire, c'est les djinns qui ordonnaient l'adoration des anges. Les anges étaient innocents de cela. Donc, ce verset est la preuve qu'une partie de Kuffar Quraysh ont adoré. Qu'Allah Azza wa Jal. Puis l'auteur nous dit, وَدَلِيلُ الْأَنْبِيَاءَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Et la preuve au sujet des prophètes, la parole d'Allah, le trait, sur la traduction des sens du verset, lorsqu'Allah dira, ô Isa, le fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère comme divinité en dehors d'Allah? Il répondra, exempt sois-tu. Il ne m'appartient pas de déclarer ce dont je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais certes su. Tu sais ce qu'il y a en moi, je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es certes celui qui connaît parfaitement l'invisible. Dans ce verset, il y a la preuve que Isa alayhi salam a été adoré en dehors d'Allah et c'est un prophète. Donc parmi ceux qui étaient adorés en dehors d'Allah, les prophètes. Il y a aussi la preuve pour les vertueux, car Maryam était une siddiqa, une très véridique, c'est le plus haut niveau après les prophètes et messagers. « ici, il y a une grande leçon. Écoutez bien. Il y a la définition du mot « ilah », divinité. Quelle est la définition du mot « ilah » ? « El ilah kullu ma'ubid ». La définition du mot « ilah » doit absolument être reçue et comprise. Le mot « ilah », divinité, signifie « toute chose adorée ». Dès lors qu'on adore une chose, tu peux l'appeler « ilah ». Dès lors qu'on adore une chose, tu peux l'appeler « ilah ». La preuve, c'est que dans le verset, de Sourate Al-Ma'ida, « A'anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah » Est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi, moi ainsi que ma mère, comme deux divinités en dehors d'Allah » Pourquoi est-ce qu'on appelait Isa a.s. et Maryam radiallahu anha ilah ? Dites-moi. Parce qu'elles ont été adorées, parce qu'ils ont été adorés en dehors d'Allah. Est-ce qu'ils l'ont voulu ? Est-ce qu'ils l'ont demandé ? Est-ce qu'ils l'agréent ? Non. Mais le simple fait de donner l'adoration à une chose suffit pour être qualifié de ilah. Pas de ta'ud, forcément, mais de ilah. C'est compris ? Et ça, c'est la preuve. Ainsi, on comprend que les divinités sont de deux sortes. Celles qui sont adorées faussement et injustement, à savoir tout autre que Allah, et Al-Ilah ul-Haq, Allah, Al-Ilah, Al-Haq, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que nous disons La ilaha illallah. Ensuite, wa dalil us-salihin, et la preuve concernant Al-Salihin. Que signifie as-salih? Quelle est la définition du mot salih? Hein? Inda man? Ça veut dire quoi salih? Vous vous répondez à tout d'habitude. Hein? Comment? Salih, ça veut dire quoi? Vous répondez aux questions super difficiles, et aux questions moins difficiles, vous répondez pas. Et je suis sûr qu'à partir de cette nuit, vous répondrez à cette question à l'avenir, Inch'Allah. Mais je m'interroge sur une chose. Brillant comme vous l'êtes, assidu comme vous l'êtes, pourtant il n'y a que lui qui note. Comment vous vous faites pour connaître tout ça? Vous avez la mémorisation de l'imam Shafi'i? Rahimahullah. Tout ce que vous voyez, vous entendez, vous le mémorisez? Hein? Comment vous faites? Dites-moi votre secret. Parce que je vois que lui noter avec un stylo et un cahier. Ça veut dire que tous les autres, ils mémorisent tout par cœur. C'est ça, Moussa? Allah vous a donné un don. Vous n'avez pas besoin d'écrire. Hein, Cheikh Khalid, ils n'écrivent pas en cours, ils mémorisent tout. Allah mabarak. Donc, al-salih signifie man qama bi haqqi Allah thumma ibadi. La définition du mot al-salih, c'est celui qui s'acquitte de ses devoirs envers Allah, envers envers ses serviteurs. Celui qui est pieux dans la salat, dans la zakat, mais il opprime les gens, il manque de respect à ses parents, il opprime l'épouse et les enfants, il ne paye pas ses employés, ou diminue leur salaire, et il fait du mal dehors. Lui, on ne dit pas qu'il est salih, même s'il est au premier rang toute l'année à la salat. Et celui qui a le meilleur des comportements avec ses parents, femmes, enfants, les gens, et ainsi de suite, mais qui ne prie pas, hein, qui jeûne pas, qui est pas bien dans sa relation entre lui et Allah, non plus on dit pas qu'il est salih. Le salih, c'est celui qui joint les deux. Il accomplit son devoir envers Allah. Il accomplit son devoir envers les serviteurs d'Allah. C'est ça qu'on appelle quoi? Salih. Et le pluriel, c'est quoi? Salihuna. Salihuna. Et est-ce qu'on peut mettre au féminin?
Vous avez problème avec les filles ou quoi? Ça, c'est au pluriel et au singulier. Saliha. Pourquoi vous me disputez comme ça? Non. Calmez-vous, voyons. Donc, saliha, c'est une femme vertueuse. Salihat, c'est au pluriel. C'est au pluriel. Donc, le salih, c'est important de savoir. Nous, on veut être parmi salihin. Eh bien, il faut préserver nos devoirs envers Allah. Tawhid, salat, zakat, suyam, hajj, et ainsi de suite. Et préserver nos devoirs envers les gens. Donc, pour être salih, déjà, il faut apprendre. On ne peut pas être salih et on n'apprend pas. Parce que si tu ne sais pas qu'il y a un droit sur toi, comment tu peux t'en acquitter? Le droit des parents, les liens de parenté, les voisins, les enfants, les orphelins, les employés, les patrons, les gouverneurs, les savants, les maris, les épouses, les pauvres, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de devoirs en l'islam, parce que c'est la religion de la perfection. Donc il faut étudier cela pour devenir salih. وَدَلِلُ الصَّالِحِينَ قَوْلُهُ تَعَالَى أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. Et la preuve concernant les vertueux, ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes un moyen de se rapprocher au mieux de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et redoutent son châtiment. Pour comprendre la preuve dans ce verset, il faut connaître la cause de la révélation. Ça aide beaucoup. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il y a deux parties. Il y a un parti qui est invoqué, qui est adoré. Et il y a ceux qui les invoquent et les adorent. Ceux qui les invoquent et les adorent font du shirk. Ce sont des créatures. Et ceux qui sont invoqués et adorés ne prêtent même pas attention à ça. Eux sont occupés à adorer Allah. C'est ça le sens du verset. Hein? C'est ça le sens du verset. Abdullah ibn Mas'ud nous dit كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن. Il y avait des gens parmi les humains qui adoraient des gens parmi les djinns. فأسلمت الجن. Les djinns se sont convertis à l'islam. Les humains n'ont pas su cela, ils ont continué à les adorer. Vous avez compris la situation? Quand ils se sont convertis, ils se sont repentis. Ils sont passés de mushrikoun à quoi? À salihoun. Donc, c'est la preuve que des salihoun ont été adorés en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Deuxièmement, ça concerne les gens comme Uzayr, qui ont été adorés en dehors d'Allah Azza wa Jalla, et eux se désavouent de cela et adorent uniquement Allah. Ça concerne également Maryam. Donc, tout être vertueux qui a été adoré en dehors d'Allah Azza wa Jalla et qui n'agrée pas ça. Parce que lui-même, il est occupé avec l'adoration d'Allah Azza wa Jal. On trouve cela dans l'Bukhari et Muslim. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَدَلِلُ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ » Quant à la preuve concernant les pierres et les arbres, c'est-à-dire que Kuffar Quraysh adorait cela, « قَوْلُهُ تَعَالَى فَرَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى » N'avez-vous pas vu Al-Lat et Al-Uzza ainsi que Mana, cet autre troisième? Qui était Al-Lat? Une pierre. Qui était Mana? Ou qu'est-ce qu'était Mana? Une pierre. Allahumma barik. Et Al-Uzza. Al-Uzza. Les trois des pierres. Un arbre. Barakallah fik. Appelle-moi ton prénom. Ryan. Tu vas être mon voisin bientôt. Inch'Allah. Tanger, c'est bien aussi. Hein. Mais toi, tu décides pas, toi. Tu obéis. N'est-ce pas? Inch'Allah, c'est bien. Donc, Al-Lat, c'est la preuve que des pierres, Al-Lat et Mana, c'est la preuve que des pierres ont été adorées en dehors d'Allah. Al-Uzza, c'est la preuve que des arbres ont été adorés en dehors d'Allah. Donc, Al-Lat, c'est une grosse pierre. Al-Lat, c'était donc une pierre. Sur cette pierre-là, il y avait un homme vertueux. Dans une autre lecture, là, il s'agit du nom de celui qui pratiquait cette action-là, que de comme mettre de l'huile dans la farine pour rendre le mets plus appétissant. Et il honorait les pèlerins avec cette nourriture-là. C'est un homme vertueux qui faisait du khair aux pèlerins. D'accord? Il mélangeait, par exemple, l'orge ou bien la farine, il rajoutait de l'huile, il rajoutait des choses, puis il nourrissait les pèlerins. Ça, c'est si on lit comme ça, Al-Lata, avec une shedda. Quant à Al-Lat, simplement, sans la shedda, ça, c'est la pierre. Certains savants ont dit que sur cette pierre-là, il faisait ça. Vous avez compris? Après sa mort, les gens ont exagéré sur lui. Et ont exagéré sur cette pierre et ils l'ont adoré en dehors d'Allah. Parce qu'ils ont dit c'est une pierre bénie. Pendant combien d'années il a fait ça? Il a fait du khayr. Et le shaitan les a fait tomber dans le shirk. Voilà. Après ça, ils ont construit dessus. Hein? Ils ont construit dessus. Ils ont fait une élévation. Pourquoi? Pour que la fitna soit encore plus forte et qu'elle tente les gens. Ça, c'est Al-Lat. Ça, c'est Al-Lat. Ensuite, on a Al-Uzza. Al-Uzza qui était à Taif, c'est un ensemble d'arbres. C'est un ensemble d'arbres. Et les gens venaient, se recueillaient, invoquaient, adoraient. Ils entendaient des voix. Et ils se disaient que ça, c'est le pouvoir de l'arbre. Mais en réalité, il y avait une djinniya derrière qui orchestrait ce désastre. Et comme c'est venu dans Sunan al-Kubra de Nasa'i, le prophète alayhi salat wa salam envoya plus tard Khalid ibn Walid pour détruire Al-Uzza. Il s'est donc rendu à cet endroit, il a coupé l'arbre et ainsi de suite, il est revenu. Le prophète alayhi salat wa salam lui a dit « Ma sana'ta shay'a, tu n'as rien fait. » Il est retourné en arrivant, il a vu une djinniya se sauver avec une très grosse chevelure. Il est venu, Naam, et il l'a détruit, en prononçant un vers de poésie, Naam, disant qu'il mécroyait en elle, et qu'il a vu Allah l'avilir. Naam. Kufranaki, la subhanaki, inni qad ra'aytu Allah qad ahanaki, radiyallahu anhu. Quant à Mana, c'est une pierre également. Naam. Qui a été adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal, qui se trouvait, elle, entre Mecca et Medina. Qui se trouvait entre Mecca et Medina. Ce verset prouve donc que des pierres et des arbres ont été adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal. Puis l'auteur ajoute un hadith. Wa hadithu Abi Waqidin al-Laythi radiyallahu anhu qala. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث selon أبو واقد الليثي. أبو واقد الليثي fait partie de ce qu'on appelle مسلمات الفتح. Les musulmans qui se sont convertis lors de l'ouverture de la Mecque. Donc ceux qui se sont convertis tardivement et ont donc pas une connaissance détaillée et versée du din encore à ce moment-là. Et ne distinguent pas parfaitement tous les détails du tawhid et du shirk.
ou plutôt le tawhid et le shirk de manière détaillée. Pas les détails dans le sens, c'est peu important, non, de manière détaillée. Et il raconte l'histoire en mentionnant son excuse. Nous sortîmes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Hunayn. Et nous venions de sortir du polythéisme il y a peu, de la mécréance il y a peu. Donc c'était des nouveaux convertis. Et les associateurs, donc il a dit ça pour que, yani comme excuse de l'erreur commise par la suite, radiallahu anhu. Et les associateurs avaient un arbre, un grand arbre, un jujubier, auquel ils suspendaient, auprès duquel ils faisaient la retraite spirituelle, et sur lequel ils suspendaient leurs armes. Là, c'est deux adorations qu'ils faisaient à cet arbre. Le premier, c'est l'i'tikaf. Le deuxième, c'est quoi? Je répète, ils faisaient la retraite spirituelle auprès de l'arbre. Vous savez que l'i'tikaf, c'est une adoration. Hein? Et c'est le fait de rester à la mosquée avec l'intention d'adorer Allah Azza wa Jalla, de se rapprocher de lui et de se couper d'autres choses. Et يَنُطُونَ بِهَا أَصْلِحَتَهُمْ. Ils suspendaient leurs armes à cet arbre, leurs épées à cet arbre. C'est quoi l'adoration ici? Endaman, qui répond? Hein? Al-Tabarruk. Jazakallahu khayran. La demande de Barak. Pourquoi est-ce qu'ils suspendaient leurs armes à l'arbre? Parce qu'ils avaient comme conviction que l'arbre allait réfléchir une baraka sur l'épée et donc la rendre plus forte au combat et plus aiguisée, plus forte et ainsi de suite. Subhanallah, le shirk, vraiment, ça détériore la raison. Hein? Ça détériore la raison. Comment un arbre, subhanallah, comment un arbre peut rendre une épée plus forte et ta main dessus plus forte? La bêtise. Hein? C'est de la bêtise. Comme celui qui met un costume de super-héros et qui pense que quand il met ce costume, il court plus vite. Vous connaissez des enfants comme ça ou pas? Il pense que quand il met le costume, il est plus fort. Il court plus vite et ainsi de suite. Ça fonctionne ça ou ça fonctionne pas? Ça fonctionne pas. Hein? N'essayez jamais. C'est le faux, ça. Ça te fait rire. Hein? Ça, c'est le faux, ça. Ça fonctionne pas. Par contre, quand tu fais la course à quelqu'un, moi, je vais te donner une cause pour courir plus vite. Tu veux ou pas? Tu dis bismillah. Tu cherches l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal. Peut-être tu les dépasses tous. Et tu cherches derrière, toi, t'es déjà arrivé, t'es assis en train de boire de l'eau. Hein? Tu dis bismillah. Barakallahu fikoum. Cet exemple, il est enraciné dans ma tête parce que j'ai vu deux petits faire la course. Et il y en a, ils disaient, bismillah, 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 bismillah. Je dis, wallah, il a été wahid, le petit. Hein? Il était déterminé, je le sentais sincère. Hein? Masha'Allah. Si on est sincère comme ça dans les courses, comment on doit être dans l'ibada, dans l'adoration, dans le salat, dans le sadaqat? Allah al-musta'an. Donc, l'adoration, c'est quoi? C'est at-tabarruk. Le seul qui peut donner la baraka, c'est Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a décidé de mettre la baraka dans certains lieux, comme le Masjid al-Haram, le Masjid al-Aqsa, le Masjid al-Nabawi. La prière, t'as plus de récompenses. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa alladhi barakna hawla. Au début de Sourate al-Isra, Allah Azza wa Jal montre qu'il a béni ces endroits-là. Allah Azza wa Jal décide de bénir certaines personnes. Dans Sourate Maryam, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Et il m'a rendu béni où que je sois. Savant du bien, qui le propage où que je sois. Allah Azza wa Jal a décidé de bénir certains moments, le mois de Ramadan. D'accord? Certaines actions. Peu de paroles, mais énormément de récompenses. Quant à là-bas, écoutez bien. La baraka, elle vient dans le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Omar al-Khattab a embrassé la pierre noire et a dit, je sais que tu n'es qu'une pierre. Ni tu donnes le bien, ni tu repousses le mal. Mais si je n'avais pas vu, le prophète, alayhi salatu wassalam, t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé.
Omar al-Khattab nous éduque ici que la baraka, elle est dans le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam, pas dans l'essence de la pierre. T'es compris? La baraka, elle est dans le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Ceci étant dit, il y a le prophète, alayhi salatu wassalam, lui, Allah lui a donné une baraka dhatiya, une baraka d'essence, dans sa salive, dans sa sueur, dans ce qui est en rapport avec son corps. Oui, il y a une baraka. Et ça, c'est que de son temps. Ça, c'est que de son temps. Vu qu'on n'a aucun effet personnel qu'on pourrait affirmer avec preuve. Hein? Certains disent, dans tel endroit, ils ont le vêtement, dans tel endroit, ils ont le cheveu, dans tel... Il n'y a pas de preuve sur ça. Barakallahu fikum. Aïcha radiallahu anha, dans les affres du prophète, sallam, lorsqu'il s'apprêtait à mourir, il se faisait ruqya. Hein? Quand il n'avait plus l'usage de la parole, Aïcha lui faisait ruqya, mais elle dit, au lieu de prendre ses propres mains à elle, poussionner dedans et essuyer, elle prenait les mains du prophète sallam pour le faire. Pourquoi? En espérant la baraka. En espérant la baraka. Ça, c'est que pour le prophète sallam. Tu fais avec personne. Tu vas pas frotter une personne, il crache dans tes mains, tu t'essuies. Ah, le chéri m'a donné la baraka, comme le font Sophia et ainsi de suite. Hein? Et tu nous craches dessus, c'est bagarre générale. Comment tu vas oser, subhanallah, mettre ton corps, il crache sur toi. Et tu penses qu'il y a la baraka dedans? C'est de la bêtise. C'est de la bêtise en plus de la saleté, subhanallah. C'est de la bassesse. C'est immoral. Hein? Il vient et lui, il le touche, et ensuite il rentre en transe, et l'autre il se couche, et l'autre il se jette, et l'autre il danse. Ça, c'est de la religion d'Allah, ça? Ça, c'est la religion d'Allah, Azza wa Jal? Jamais. La religion d'Allah, elle est parfaite, elle est splendide, elle est grandiose. La religion d'Allah, Azza wa Jal, elle est juste. C'est la religion d'excellence. C'est la religion de la droiture qui préserve la raison. Pas qu'il la dénature et la détériore. La baraka, elle se recherche chez Allah, Azza wa Jal. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, wal barakatu min Allah. Et le mot tabarak, il se conjugue pas. Il se dit que pour Allah, Azza wa Jal. Tu vois, une personne, elle a un beau visage, tu dis Allahumma barik. Parce qu'elle m'a dit, soit une chose qui te plaît, barik. Dis Allahumma barik. Dis barakallahu fik. Tu vois un beau visage, tu vois une belle voiture, tu vois une belle situation, tu vois une belle mémorisation, tu vois une piété, tu dis Allahumma barik. Comme ça, tu jettes pas le mauvais œil. N'est-ce pas? Certains se trompent et disent, en voulant dire, oh Allah, bénis-le, ils disent, tabarakallah. Or, le sens de tabarakallah, c'est pas ça. Tabarakallah, c'est des éloges que pour Allah. Ça ne se conjugue pas. Tu mentionnes la grandeur d'Allah Azza wa Jal, son immensité, tu dis tabarakallah. Donc si tu vois une bonne chose, tu regardes le ciel, tu regardes le coucher de soleil, tu regardes telle ou telle chose, hein, de la création, tu dis tabarakallah. Là, tu fais les éloges d'Allah. Vous comprenez? Mais si tu veux bénir la chose, là, tu demandes à Allah de le bénir, en disant « Allahumma barik, barakallahu fik ». Et ça, c'est une erreur répandue. Les deux paroles, tu peux les placer souvent dans les deux contextes. Mais ne dis pas le premier alors que tu veux le deuxième, ni le deuxième alors que tu veux le premier. C'est ça ma remarque. Parce qu'il y a un frère bien-aimé à nous, il m'a dit « Tu as dit que les gens de mon peuple faisaient cette erreur ». Mais je ne pense pas qu'on fait cette erreur-là. Parce qu'on dit ceci, cela, et on a échangé sur ce sujet cordialement, bien évidemment. Finissons l'explication du hadith. Cet arbre-là, on le surnommait, était surnommé ذات وأنواط. أنواط, c'est le pluriel du mot ناوط, qui veut dire accrocher et suspendre. Cet arbre-là, c'est comme si on l'appelait en français celui auquel on suspend beaucoup de choses. On suspendait tellement de choses qu'on l'a surnommé celui auquel on suspend beaucoup de choses. Vous avez compris? ذات وأنواط. Celui auquel on suspend beaucoup de choses. C'est ça le surnom de cet arbre. Alors Abu Waqid al-Layfi et autres parmi les nouveaux convertis, en passant près de cet arbre et en voyant ce que faisaient et pratiquaient les associateurs, ont dit, après être passé près d'un autre arbre, un autre jujubier, ô messager d'Allah, donne-nous un ذات وأنواط, un arbre auquel on va suspendre nos armes pour avoir la baraka. Comme eux ont un ذات وأنواط. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est mis en colère. Il a dit, Allahu Akbar.
ou bien subhanallah innaha sunan.
Vous avez dit,
puis il a juré par Allah la même parole que Banu Israël a dit à Moussa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Donne-nous une divinité comme ils ont une divinité.
Naam.
That one what, c'est un arbre. Les associateurs lui ont voué deux adorations au minimum. Al-i'tikaf et tabarruk. C'est la preuve qu'ils ont adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, il y a une grande leçon dans ce hadith. C'est que le fait de ne pas connaître le tawhid et le shirk de manière vraiment détaillée, c'est très dangereux pour son islam. Très dangereux parce qu'on peut faire des fautes d'où on pense le bien. C'est pour ça qu'il faut étudier. Parce que sinon on peut tomber dans le shirk, personne n'est à l'abri. Ibrahim alayhi salam a eu peur de tomber dans le shirk en disant « Wajinu bani wa bani an na'bud al-asnam » Éloigne-moi, moi et ma descendance de l'adoration des idoles. Ibrahim al-Taymi, rahimallah, depuis le prédécesseur, disait « Wa ma ya'manu al-bala ba'da Ibrahim » Et qui pourra se sentir à l'abri après Ibrahim? Le prophète alayhi salatu wa salam disait « Akhwafu ma khafu alaykum al-shirku al-asghar » Ce que je redoute le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur, l'ostentation. Certains parmi les savants ont dit, s'il a redouté pour les meilleurs des gens le shirk asrar, on est en droit d'avoir peur pour nous de tomber dans le shirk akbar. Le prophète a informé que l'heure ne retentira pas avant que Dhul Khalasa soit adoré en dehors d'Allah Azzawajal. C'est une fausse divinité au Yémen, ou qui était vers le Yémen, qui était adorée par des associateurs. Hein? Et ça a été enlevé. Le prophète m'a dit, avant la fin des temps, les gens vont retourner l'adorer. Et il y a plein de hadiths qui montrent que le shirk va revenir dans la péninsule arabique. Wallahu musta'an. Donc il ne faut pas être distrait de l'étude du tawhid et de manière détaillée. La da'wah de Ahl Sunna, elle se distingue de la da'wah des gens de l'innovation par l'appel au tawhid de manière détaillée. Et là, la mise en garde contre le shirk de manière détaillée. Quant aux gens de l'innovation, quand tu les conseilles dans leur prêche, tu leur dis, appelez au tawhid. Ils disent, j'appelle au tawhid, regarde, j'ai une conférence sur le tawhid. Hein? Comme ils n'ont pas compris l'importance du tawhid et qu'ils n'ont pas étudié le tawhid avec les savants de la sunna, ils ne peuvent pas comprendre de quoi tu parles. Tu lui parles d'une chose, il en comprend une autre. Donc pour lui, il le fait. Et toi, tu le blâmes parce que tu vois qu'il ne le fait pas, parce que tu sais, lui, il ne sait pas. Donc déjà, il faut lui montrer c'est quoi le tawhid. Deuxièmement, c'est quoi les branches du shirk? Troisièmement, c'est quoi l'importance de ça et la dangerosité de ça? Ça ne sert à rien de lui dire appel au tawhid. Il ne comprend pas de quoi tu parles. Lui, il pense que le plus important, c'est les sujets sociétal. Plus important, hein, c'est le comportement. Plus important, c'est tel sujet, tel... Non, plus important, c'est la purification de la croyance. Puis, la purification du corps pour la salat. Puis, le jeûne. Puis, et ainsi de suite. Il y a un ordre. Il y a un ordre. Inna kata'ti qawman min ahli al-kitab. هَلَكُنَ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْمِ إِلَيْهِ شَهَدَتُ وَاللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَفِي رِوَيَةٍ إِلَانْ يُوَحِدُ اللَّهِ فَنُوْمَ طَعُوكَ لِذَلِكَ فَعَلِهُمْ أَنَّ اللَّهِ فَضَرَضَ عَلِهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ. Et ainsi de suite. Au Mu'ad, tu vas te rendre un peuple des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les invites soit d'unifier Allah. S'ils t'obéissent en cela, informe-les qu'Allah leur a prescrit 5 prières du jour comme de lui. S'ils t'informent en cela, et après la zakat. Il y a un ordre dans la da'wa. Tu choisis pas comme tu veux, comme tu fais, à qui tu fais. Non. La da'wah, c'est une adoration, tu dois respecter le suivi du prophète alayhi salatu wa salam dedans. Voici pour la troisième règle. Et alhamdulillah, lorsque le prophète alayhi salatu wa salam les a repris, ils se sont corrigés et ils n'ont pas agi. Donc au maximum, les savants disent qu'ils ont pu tomber dans le shirk asrar. Mais pas dans le shirk akbar, parce qu'ils n'ont pas agi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas agi. Barakallahu fikum. Donc la tentation, elle est présente. Et la possibilité de glisser, elle est présente. Il ne faut pas qu'on se sente à l'abri et qu'on se dise on est musulman et c'est suffisant. Et je prie et c'est suffisant. Non. Il faut apprendre tawhid, répéter tawhid. Et si on vous dit jusqu'à quand vous allez étudier tawhid, répondez. Jusqu'à ce que l'ange dans la tombe me dise « Men Rabbouk » et que je dise « Rabbi Allah ». Jusqu'à là, et là j'aurai réussi. Là j'aurai réussi. Tant que l'épreuve n'est pas passée, je m'entraîne, je fais des efforts, je m'entraîne, je fais des efforts. Certains payent des profs à leurs enfants toute leur scolarité.
Il les entraîne, il les entraîne, il les prépare, il les prépare. Pour un examen d'un jour qu'il peut rattraper. Hein? Pour le bac ou pour ceci ou cela. Hein? Alors que les patrons, maintenant, ils n'ont pas le bac et les employés, ils ont le bac et ils ont le bac plus. Ça, oulala. Hein, patron, c'est vrai ou pas? Subhanallah. Il y a beaucoup de patrons ici, ils savent de quoi je parle. Donc, mais là, c'est l'examen, si tu rates, c'est l'anéantissement éternel. Ça mérite pas qu'on étudie, qu'on se prépare pour ce jour-là. Qu'on étudie, qu'on révise, qu'on se rappelle. Hein? Barakallahu fikoum. Pour finir, l'auteur nous dit al-qa'idatu al-rabi'a. أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. La quatrième règle, les associateurs de notre époque ou un polythéisme plus ancré encore que les polythéistes anciens. Vous avez compris la règle? C'est que les polythéistes contemporains sont pires dans le shirk que les anciens. Il y a plusieurs points de vue qui montrent cela. L'auteur va se contenter d'en citer un parce que c'est un livre résumé. Il dit que les anciens, ils faisaient du shirk quand ils étaient dans l'aisance, ils avaient la santé, ils avaient les moyens, ils étaient bien. Et quand ils étaient dans la difficulté et qu'ils avaient peur pour leur vie, pour leur argent, pour leur famille, là, ils abandonnaient toutes les fausses divinités et ils disaient que y a Allah, ils invoquaient que Allah, ils faisaient tawhid. Vous avez compris? Dans la facilité, ils faisaient shirk. Dans la difficulté, ils faisaient quoi? Tawhid. Alors que les contemporains, qu'ils soient dans l'aisance ou dans la difficulté, ils font du shirk. Pire encore, des fois dans la difficulté, il faut encore plus de shirk. Donc, ils sont pires en matière de shirk que les anciens. La preuve, lorsqu'ils montent en bateau, Kuffar Quraysh, ils invoquent Allah, lui vouent un culte exclusif. Puis une fois qu'il les a sauvés, c'est-à-dire des dangers de la mer, de la noyade, et en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'ils donnent des associés. Donc, en ayant peur lorsqu'il y a l'orage, la tempête, de mourir, que du tawhid. Mais lorsqu'ils sont sur la terre ferme, ils reviennent au shirk. Ça, c'est la preuve que les anciens, que les contemporains sont pires en matière de shirk que les anciens. Naam. Ça, c'est un point de vue. Naam. Mais en vrai, ça, c'est de la bêtise même. Pourquoi? Parce que celui qui pouvait te noyer en mer, c'est celui qui peut reprendre ta vie sur la terre. N'est-ce pas? Il est tout à fait capable. Et la plupart des gens, ils meurent pas en mer, il meurt sur la terre. Parce que le shirk, ça touche à la raison. Ça détériore la raison. Il y a d'autres points de vue qui montrent qu'ils sont pires en shirk. Par exemple, avant, les anciens, beaucoup, lorsqu'ils adoraient autre qu'Allah parmi les gens, c'était des vertus, c'était des pieux, des prophètes, des anges. Mais beaucoup de contemporains, ils adorent des gens qui sont des pervers, qui font même pas salat. Certains, ils font même pas salat. Hein? Certains, ils commettent des turpitudes. Et j'en passe. Troisièmement, les anciens reconnaissaient les longs attributs d'Allah Azzawajal. Alors que parmi les contemporains, certains renient les attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enfin, les anciens, quand ils voulaient appuyer une information et prouver leur véracité, ils juraient par Allah. Alors que les contemporains, les polythéistes, quand ils veulent vraiment affirmer une chose et que tu le crois, ils jurent par le wali, ils jurent par un tel ou un tel. Hein? Un point tel qui jure sur Allah en mentant, et lorsqu'il lui est dit, jure par un tel, il n'arrive pas. Parce qu'il a plus peur du wali qu'il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle khawf ou sir, wal'iyadu billah. Voici pour cette quatrième règle. On peut finir par une histoire, l'histoire de Ikrima ibn Abi Jahl. Ikrima, c'est le fils de Abu Jahl. Le prophète, alayhi salatu wa salam, avait spécifié certaines personnes qui avaient causé énormément de tort et commis des meurtres et fait du mal aux sahaba, au prophète, alayhi salatu wa salam, à l'ouverture de la Mecque. Sinon, il a mis en sécurité les gens qui n'allaient pas le combattre. Ikrima s'est alors sauvé par la mer, en bateau. Et arrivé en mer, il y a eu une tempête, il a eu peur pour sa vie. Et là, il a invoqué Allah. Puis il s'est dit à lui-même, « Wallahi, celui qui me sauve ici, c'est celui qui mérite d'être adoré. Quand je suis en mer. Mais alors c'est le même qui doit être adoré quand je suis sur la terre. » Regardez la réflexion. « Tawhid al-Rububiyya, ça l'a amené où ?»« Tawhid al-Uluhiyya. » Puis il a juré, « Wallah, si Allah tu me sauves, j'irai voir Mohammed et je me convertirai à l'islam. » Allah l'a sauvé, il est parti, s'est converti à l'islam et c'est devenu un noble sahabi, radiallahu anhu. L'auteur finit sa risala en disant, « Tammat wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. » Et nous disons, Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Toutes les louanges reviennent de droit Allah, celui par la grâce duquel les bonnes œuvres se concrétisent. Dans ces deux jours, on a pu lire, étudier et finir l'explication du livre Al-Qawa'id Al-Arba'a, qui est un livre grandement bénéfique, qui te permet de distinguer clairement et grandement, avec toute clarté et sûreté, entre la religion des polythéistes, voire t'en éloigner, et la religion des monothéistes, pour pouvoir y adhérer, l'étudier, la développer et l'appliquer jusqu'à ta rencontre avec ton Seigneur, la seule divinité qui mérite d'être adorée. Wa sallallahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi. وبركاته